Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, les salles restent fermées, mais nous gardons les yeux ouverts. Les écrans ne sont pas encore éteints, alors sauf pour certains.
On vous donne une voiture de 30 000 euros à casser. C'était amusant.
Enfin, je veux dire, il a une science absolument incroyable. C'est un vrai scientifique, c'est le Einstein de la cascade. Et c'est un grand bonhomme.
Alors, de qui on parle, là?
Rémi Julien.
Mais oui, Rémi Julien. Bien sûr, le cascadeur et régleur de cascade est mort le 21 janvier dernier. Et comme pour Bacri, hein, on ne va pas se priver de faire un blind test autour de son épaisse filmographie, puisqu'il a assisté à de nombreux tournages français et même étrangers pour superviser les cascades. Alors, sauf que nous n'avons, nous, que 5 extraits à faire deviner. Mais l'émission, eh bien, ce sont aussi des films en VOD, DVD ou sur les plateformes de streaming. Et toi, Manu, tu nous reparles d'un petit bijou d'animation réalisé alors entièrement par un seul homme.
Oui, ailleurs, un film d'un jeune cinéaste, un Ginzi Balodis, qui sort donc en DVD et en VOD.
Et puis toi, Guillaume, un film Netflix.
C'est ça, The White Tiger, le tigre blanc de Ramin Barani.
Et puis Marine, elle a vu Black Beach, un film qui sort en VOD d'Esteban Crespo. Mais nous allons commencer par un conte moral teinté de thriller psychologique et puis d'une réflexion sur le déterminisme. C'est donc le tigre blanc.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Depuis mon enfance, le désir d'être un bon domestique était enfoncé au marteau dans mon crâne.
Le Tigre Blanc a beau être une adaptation du best-seller du même nom, hein, il n'en est pas moins un film qui ressemble beaucoup à son réalisateur. Ramin Barani, hein, américain d'origine iranienne, s'est en effet fait un nom, hein, dans un registre devenu un peu transparent aujourd'hui, le film engagé. Non pas qu'il n'y ait plus de films engagés qui soient produits à l'heure actuelle, mais la ligne directrice de Barani, elle a le mérite d'être extrêmement claire et d'afficher une continuité de film en film. En 2015, 99 Homes l'avait révélé à un plus large public grâce à son grand prix au festival de Deauville. Petit à petit, Barani construit une œuvre intéressante qui s'intéresse aux pauvres, aux rapports qu'ils entretiennent avec leur environnement et ce qui va leur en coûter pour survivre. Et sans surprise, tout cela est contenu dans le titre même de son dernier long métrage.
J'ai tout de suite su que c'était le maître que je cherchais. J'aimerais devenir le chauffeur de votre fils.
Bonjour, je suis
Jean. Attends.
Hey, chauffeur!
Je m'appelle Pinky, ravi de faire ta connaissance.
Dis-moi, tu as déjà vu un ordi?
On en avait plein au village. Avec nos chèvres.
Ah oui, c'est vrai que les chèvres sont plutôt douées en informatique.
Là, t'es con. Je n'avais pas aimé la façon dont il avait parlé de moi.
Qu'est-ce que tigre blanc, hein, d'après Barani? Le tigre blanc, c'est un animal sauvage unique, le seul animal de la jungle qui n'apparaît qu'une fois dans une génération. Et très tôt, on va comprendre que ce tigre blanc du titre, c'est notre héros. Balram est un jeune indien qui appartient à la caste la plus déshéritée de son pays. Il vit dans la misère la plus noire et cette condition de pauvre est tellement implantée dans sa tête qu'il ne s'imagine alors pas être particulièrement différent des autres. C'est pourtant ce qu'on va lui faire comprendre un jour, hein, lorsqu'il va se rendre compte qu'il est le seul à avoir appris l'anglais en classe. Passant pour un surdoué, il est surnommé le Tigre Blanc et s'imagine dès lors promis à un avenir exceptionnel. Il y a néanmoins une réalité qu'il ne peut ignorer. En Inde, l'ascenseur social est particulièrement vermoulu et tout le ramène à sa condition de miséreux qui ne peut qu'espérer être au mieux un domestique traité comme un chien par un puissant. Et c'est exactement ce que va faire Balram. Lassé par sa vie au village et voulant fuir sa famille qui vit sur son dos et veut le marier avec une femme inconnue et préchoisie, il décide d'affronter la ville et va sonner à la porte d'un riche homme dont il sait qu'ils ont des origines communes. Ils proviennent tous les deux du même village. Mais Balram sait qu'il ne doit pas s'arrêter à ce rôle de façade, il veut se faire accepter par la famille et va pour cela user de toute son intelligence pour y arriver. En titillant cette corde sensible des mêmes origines et usant de sa sympathie naturelle, il arrive à se faire engager comme second chauffeur de la famille.
Pourquoi vous le traitez de cette façon? Pourquoi vous le maltraitez comme ça?
T'es mon chauffeur, tu travailles pour moi!
I want to break free! I want to break free!
Ils avaient un objectif, mais moi aussi. Il me fallait devenir la créature qui ne naît qu'une fois par génération.
Le tigre blanc.
C'est comme ça que je m'appelle aujourd'hui.
Alors, jusqu'à présent, le tout ressemble à un conte de fées, dans la pure tradition du film hollywoodien. Mais il n'en est rien, car comme le dira plus tard notre héros, pour les pauvres, il n'y a que deux moyens de réussir, le crime ou la politique. Et criminel, il va le devenir assez vite. Profitant de la haine entretenue par l'un de ses employeurs, car il se met au service de l'homme d'affaires, mais aussi de ses deux fils et de la femme de l'un d'entre eux. Donc, profitant de cette haine envers des musulmans, il va dénoncer le premier chauffeur qui est de cette confession et va le faire mettre à la porte pour prendre sa place. Cet acte, le premier d'une longue liste de manifestations qui oscillent entre humour noir, tragédie, méchanceté et profonde détresse due à ses origines misérables, sont commentés en direct par Balram au spectateur. Le réalisateur n'hésite pas à briser régulièrement le quatrième mur en usant même de regard caméra au moment opportun. Le récit lui-même est en forme de flashback. Balram, désormais fortuné, nous narre son ascension dans l'Inde moderne et comment il est devenu un entrepreneur. C'est bien évidemment sa vision et une vision acerbe et cynique du capitalisme qui nous est proposée ici, ou comment l'argent dresse des murs entre les castes qui décident de rester séparés. Il y a d'un côté les puissants, les maîtres qui peuvent tout se permettre, et de l'autre les pauvres, éternels serviteurs. Mais ces serviteurs sont montrés comme étant conscients de leur statut et devant s'y conformer, d'où le fait que Balram, brisant les conventions, est le fameux tigre blanc de sa génération. Le film se démarque donc volontairement du conte de fées hollywoodien, à se permettant même une pique bien sentie à Slumdog Millionnaire dont il se veut l'antithèse. Ici, pas de, je cite, un jeu où vous pouvez gagner des millions qui permettront de s'en sortir, mais un jeu de dupes et de manipulation qui impliquera même d'aller jusqu'au meurtre. Alors même si on comprend et appuie ses motivations, Balram n'est néanmoins pas un héros, pur et dur. Et du fait de son cynisme et de sa violence qui va progressivement envahir l'histoire, le réalisateur arrive à montrer la difficulté d'apprécier ce genre de récit qui ne peut pas se dérouler de manière idyllique comme le fait habituellement Hollywood. C'est donc avec un sentiment partagé que l'on quitte le visionnage du Tigre Blanc, car on n'a bien évidemment pas pu s'identifier comme il est de rigueur à un héros moralement complexe et donc douteux. Et il est bien sûr assez éloigné de celui dépeint d'habitude dans le cinéma indien d'Ashutosh Gowarikar, je pense à son particulièrement formidable Swades, où le héros, devenu prospère, va revenir aider les siens et l'âme de l'Inde par la même occasion. Le Tigre Blanc rugit par tous ses pores sa méfiance et ses doutes quant au système capitaliste et au spectateur d'en tirer son propre jugement définitif.
Le Tigre Blanc est un film donc qui est disponible sur la plateforme Netflix. N'oubliez pas de partager vos codes. Le cadre d'une entreprise pétrolière doit aller en Afrique pour négocier la libération d'un ingénieur américain et ça ne l'arrange pas. C'est Black Beach et ses marines qui nous en parlent.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Carlos Foster est cadre au sein d'une société pétrolière américaine. Sa vie n'est que rendez-vous d'affaires, calme et volupté, jusqu'au jour où ses supérieurs le choisissent pour partir en Guinée équatoriale afin de gérer les négociations pour la libération d'un ingénieur qui a été kidnappé. Mais une fois sur place, tout se complique. Carlos découvre que son ex-amante et son mari, affiliés à un groupe de révolutionnaires locaux, semblent être plus que compromis dans cette affaire. Carlos va devoir retrouver de mystérieux documents secrets, échapper à des dirigeants assez peu démocrates qui veulent l'empêcher de découvrir de sombres affaires de corruption et faire face à son propre passé. Le tout en passant par la tristement célèbre prison dénommée Black Beach, une prison qui existe réellement en Guinée équatoriale et qui est notamment connue pour les traitements inhumains qui y sont infligés aux détenus. Deuxième long métrage de Esteban Crespo, réalisateur espagnol relativement inconnu chez nous, Black Beach s'inscrit efficacement dans la lignée des thrillers espagnols contemporains ayant réussi à dépasser leurs propres frontières pour arriver jusqu'à chez nous. On peut citer parmi ces thrillers les films de Rodrigo Sorogoyen, La Isla Minima de Alberto Rodriguez ou encore La Nina de Fuego de Carlos Vermut. Black Beach néanmoins ne se contente pas de jouer avec nos nerfs mais ajoute à son intrigue une bonne dose de scènes d'action permise par un confortable budget alloué par la plateforme Netflix qui distribue le film un peu partout dans le monde. Black Beach est un thriller profondément désabusé sur les relations internationales qui ici s'entrechoquent avec les histoires personnelles et familiales. C'est par ailleurs un film qui exige de la part du spectateur une importante concentration, hein, car le fil de l'histoire est parfois déroulé de façon un peu complexe. On peut également ajouter que le fait de donner le même nom à deux personnages différents n'était vraiment pas la meilleure des idées pour faciliter notre compréhension. L'incompréhension latente est également due à l'évolution du personnage principal, Carlos, qui passe beaucoup trop vite et avec une déconcertante facilité du statut d'homme d'affaires à celui d'agent secret. De plus, nous vivons toutes ces péripéties au travers des yeux de ce personnage principal et uniquement de ses yeux, ce qui limite d'autant plus notre capacité à cerner une narration parfois un peu trouble. Il faut réussir au cours de la première demi-heure à s'attacher à ce personnage particulièrement mutique, hein, et peu avenant, dont le faciès pour le moins renfrogné évoque celui d'un contrôleur de la CAF. Heureusement, ce personnage peu sympathique est rapidement contrebalancé par la verve de la comédienne Candela Peña, déjà vue chez Almodovar et qui interprète ici son ami et seul allié sur place. Une fois notre attention captivée et l'histoire bien lancée, ce thriller géopolitique s'avère efficace, doté de scènes d'action solides et de rebondissements qui se tiennent, jusqu'à un dénouement d'un cynisme absolu qui réjouira les spectateurs les plus pessimistes quant à l'état de notre monde.
On entame maintenant la partie jeu de cette émission avec un blind test consacré à Rémi Julien.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, c'est une blague.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Il a son nom au générique de plus de 1400 films, longs-métrages, clips et publicités, cascadeur et régleur de cascade. Rémi Julien a été la doublure d'Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore, Sean Connery, avec si James Bond quand même à son actif. Il est décédé à l'âge de 90 ans des suites du Covid. Et donc, c'est l'occasion alors, de jouer à un blind test. Vous allez écouter 5 extraits empruntés à la filmographie. C'est pas vraiment à la filmographie, puisqu'il il n'en est pas le réalisateur de ces films. Mais en tout cas, il a réglé les cascades de nombreux films. Et donc, voilà, 5 extraits à écouter. Il faut évidemment en trouver le titre. Et évidemment, j'ai essayé de donner des films simples. La preuve avec ce premier extrait.
Pourriez-vous me rendre un service, monsieur ?
En principe, non. Mais encore ?
Ça va vous paraître extravagant, mais pourriez-vous me passer cette mallette à la douane ?
Oui. Bon bâtardement.
Non, je vous en prie, si vous voulez jeter un coup d'œil. Pardon.
A priori, je fais confiance à mes contemporains, surtout lorsqu'ils ont une tête sympathique.
Ah, ma vie, cher monsieur, est extrêmement compliquée. J'ai une femme délicieuse, une maîtresse délicieuse.
Et alors ?
Ben...
Parce que je ne vois pas de situation compliquée. Tout ça est extrêmement banal et tout ce que je vois là-dedans est extrêmement anodin. Trop anodin, peut-être, dirait quelqu'un de méfiant.
Ça a été évidemment trouvé.
Et c'est le Guignolo.
Oui, et on entend évidemment bien Jean-Paul Belmondo, film de Georges Hautner, le Guignolo, qui dépeint Alexandre Dupré, qui est un voleur et séducteur, expert en cambriolage, mais aussi en escroquerie vaudevillesque. Il est en mission pour le gouvernement, il doit passer la frontière italienne avec une mallette qui contient un briquet. Alors lui, il ignore ce qu'elle cache, cette mallette, mais une horde d'espions étrangers se lance à ses trousses. Alors autant dire qu'il y a des cascades nombreuses avec des bateaux, notamment un qui défonce le hall d'un hôtel. Mais c'est surtout une scène dans laquelle Belmondo est suspendu en hélicoptère et survole Venise, qui peut marquer les spectateurs. 2,8 millions d'entrées en France pour le Guignolo. Et puis, à noter quand même que c'est à partir de 1979 que Julien se lie avec le tandem Lautner-Belmondo, pour Flic ou Voyou également, et puis pour Le Professionnel. Et puis, on peut dire qu'il fera 14 films avec Jean-Paul Belmondo, puisque... Autant Rémi Julien, lui, était déjà très connu pour faire des cascades, mais Jean-Paul Belmondo, lui, au bout d'un moment, va être connu pour les réaliser lui-même. Mais il a besoin pour ça d'un bon metteur au point. Et là, il y avait une espèce de tandem qui s'est créé au fil des films.
On t'explique depuis tout à l'heure qu'on n'a personne. Va doucement, on a le temps.
C'est pas croyable. Arrête-toi.
Hein ?
Arrête-toi.
Mais non, on va foncer, Lino.
Je te dis de t'arrêter.
Mais non, on ne m'attrape pas.
Là. Arrête-toi. On va leur expliquer maintenant.
Vous n'avez pas vu le stop là-bas ?
Un stop.
Un stop.
Vous avez vu un stop, vous ?
Non.
Ça ?
Où il y a un stop ?
Là-bas, 150 mètres. Pas de stop là-bas.
Pas de stop, monsieur l'agent.
Trouvé sur le fil par Guillaume.
C'est l'aventure ?
Oui, de Claude Lelouch, sorti en 1972. Là, on entendait Lino Ventura et puis Aldo Machone qui conduisait la voiture. Alors, j'ai pris cet extrait justement parce que là, il y a des petites cascades avec cette voiture, puisque c'est une... Normalement, c'est une course-poursuite, mais une fausse course-poursuite. Voilà. On a dans la distribution de ce film Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner, Aldo Machone et Charles Gérard. Alors, les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truands décident de se recycler en enlevant des personnalités. Et le premier sur la liste n'est autre que Johnny Hallyday. J'ai aussi hésité avec cet extrait où donc ils ont Johnny avec eux.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que Lelouch, on se rappelle pour ses grandes fresques de personnages, mais oui. C'est un passionné de bagnole, oui. Et de cascade. Il a même fait un court-métrage célèbre où la caméra est fixée devant la voiture et tout le film, c'est un type qui se rend un rendez-vous amoureux
dans Paris
et oui. Il traverse la ville à une vitesse folle.
Et il a préparé un autre d'ailleurs court-métrage qu'il a tourné récemment en 2020 à Monaco. Voilà qui serait une réponse à ce premier court-métrage Rendez-vous. Donc de nombreuses cascades en voiture dans l'aventure, c'est l'aventure, avec 3,8 millions d'entrées en France. Troisième extrait de ce blind test.
C'est le commissaire à l'appareil.
Monsieur le commissaire, il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee.
Le chewing-gum ?
Oui, le chewing-gum.
Et qui êtes-vous, monsieur ?
Victor Pivert, industriel à Paris.
Pivert ?
Pivert, comment Pivert ?
Je vous écoute.
Voilà, monsieur le commissaire. J'ai eu un accident de voiture. Et je cherchais du secours quand je suis tombé sur une bande de moricots en train de s'entretuer. Des moricots avec une figure marron, jaune, vous savez. Ouais, le moricot, quoi.
Et où vous trouvez-vous en ce moment, monsieur Pivert ?
Ah bah ici au bureau, à l'usine. Je suis dans l'usine, au bureau de l'usine. Voilà, il est là.
Surtout, ne bougez pas.
Trouvé.
C'est les aventures de Rabbi Jacob.
Eh oui, film de Gérard Houry de 1973. Victor Pivert, homme d'affaires irascible et foncièrement xénophobe, on l'entend quand même un petit peu, est poursuivi malgré lui par de dangereux malfrats. Et pour leur échapper, il n'a d'autre solution que de se faire passer pour un certain Rabbi Jacob. Alors, il y a dans ce film, donc, bon, c'est Rémy Julien qui a réglé les cascades. Il a réglé d'ailleurs les cascades de quasiment tous les films de Gérard Houry. Et donc, il y a une cascade notamment en voiture, où Rémy Julien a dit qu'il avait failli se noyer. C'est le moment où il catapulte la déesse de Pivert dans un étang avec son bateau sur le toit. Alors, une fois sous l'eau et dans la vase, eh bien, Rémy Julien ne retrouvait plus l'embout lui permettant de respirer. Et donc, eh bien, il doit la vie sauve à l'intervention, évidemment, des plongeurs, parce que bon, il était connu quand même pour être extrêmement professionnel, Rémy Julien, et il y avait quand même toujours quelqu'un susceptible de venir l'aider en cas de coup dur. Les aventures de Rabbi Jacob. Est-ce que vous vous souvenez le nombre d'entrées qu'a pu faire ce film, un film de finesse ?
C'est un gros succès, ça.
4 millions.
Oh non, 7,2 millions d'entrées en France. Allez, quatrième extrait de ce blind test consacré au cascadeur, Rémy Julien.
Je sais très bien ce que vous préparez. Êtes-vous à moi, vous aurez besoin de mon aide. Rappelez-vous, si le département Q ne vous avait pas aidé, vous seriez mort et enterré. Tout ce qu'il faut à l'homme en villégiature. Réveil matin explosif, garanti pour ne jamais réveiller son utilisateur. Dentonite en dentifrice, en faire usage avec modération. C'est le dernier cri dans les explosifs plastiques.
Il faut vivre avec son époque.
Alors, ben là, dans les studios, c'est trouvé parce que c'est un James Bond, effectivement. Mais le problème, c'est qu'il a fait 6 James Bond, Rémy Julien.
Quand même. À partir de quand ? À partir de...
C'est Roger Moore, hein, c'est ça ?
Eh bien, il a fait à partir de Ring pour vos yeux, peut-être, je ne sais plus. Voilà. En tout cas, ce n'est pas celui-ci. Là, c'est un James Bond. Alors, je vais donner un indice avec Timothy Dalton.
Permis de tuer.
C'est ça. Réalisé par John Glenn, donc sorti en 89. Dans cette 16e aventure de l'agent 007, l'espion va devoir utiliser son permis de tuer contre la vie même de M, son supérieur hiérarchique. Et toujours entouré de blondes et de brunes, hein, James Bond va tout faire pour mettre la misère au plus puissant des trafiquants de drogue, méchant parmi les méchants. Alors, à noter que dans ce film, ce qui a été apporté par Rémy Julien, c'est des cascades avec des camions-citernes. Voilà.
Ouais, le finish est super impressionnant.
Ouais. Voilà. D'autres James Bond, donc je le disais, Rien que pour vos yeux, Topussy, Dangereusement vôtre, et Tuer n'est pas joué, et puis GoldenEye, voilà, en dernier. Pour ce film, Permis de tuer, combien d'entrées en France ? 2 millions. Parmi ce blind test, c'est le moins grand nombre d'entrées. Dernier extrait.
On écrit l'information sur un papyrus.
que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, emplie de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise, le vinaigre dissout le papyrus et le secret est perdu à jamais. Le seul moyen d'accéder à l'information est de composer le mot de passe au moyen de ces 5 bagues, comportant chacune 26 lettres, soit 12 millions de possibilités.
Jamais rencontré de jeune fille aussi pointue en matière de cryptex.
Voilà un compliment qu'on aimerait bien avoir plus souvent, j'imagine. Ça a été trouvé, Guillaume.
C'est le Da Vinci Code ?
Oui, de Ron Howard, film de 2006 qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec Tom Hanks, qu'on entendait, et puis Audrey Tautou. Il y a aussi Jean Reno. De Paris à Londres, puis en Écosse, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, et la cryptologue Sophie Neveu vont tout tenter pour déchiffrer le code contenu dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors pourquoi j'ai choisi ce film ? Et oui, pourquoi ?
Parce qu'il y a des cascades.
Alors il y a sans doute quelques cascades, mais c'est surtout le dernier film auquel a participé Rémy Julien. Voilà.
Mais c'est pas la fin en fait de Rémy Julien, sa carrière. Il y a du coup ses deux fils qui ont pris le chemin, qui vont, on espère, vont continuer les effets pratiques qui sont ultra impressionnants.
Hein. Et ils t'ont régalé, hein, puisqu'ils ont réglé des cascades dans les Vandamme. Donc.
Ah ouais, un petit peu partout, jusque dans Vandamme.
Et oui. Enfin, je dis ça aux auditeurs parce que Guillaume a l'habitude, enfin, nous a régalé avec quelques chroniques sur des films avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré eh bien, à la filmographie très vaste de Rémy Julien. Je pense que vous allez mettre un certain nombre d'années à voir tous les films auxquels il a participé.
This is Cinerama.
Lauréat du prix Contrechamp au festival d'Annecy, une quête initiatique sans parole, élégante, faite en solo par un réalisateur letton, c'est Ailleurs, et c'est toi qui nous en parles, Manu.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Ailleurs est un miracle, un film miraculeux, conçu dans des conditions exceptionnelles, plus encore pour un film d'animation. Alors tourné en 3D avec un budget dérisoire sur une durée de 3 ans et demi, cette proposition unique est l'œuvre totale, au sens littéral, d'un jeune artiste letton de 26 ans, Gints Zilbalodis, puisqu'il a tout conçu de A à Z, ce qui paraît hallucinant au vu du résultat qui dépasse de loin la production contemporaine, tant d'un point de vue narratif que visuel. Alors entièrement muet, Ailleurs se regarde comme une fuite en avant avec une histoire rectiligne. Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Il a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. Accompagné par un petit poussin blessé qu'il a guéri, il tente de traverser l'île pour retrouver la civilisation. Quand une mystérieuse créature se met à le suivre. Alors loin d'être un objet abstrait et abscond dénué de dramaturgie centré sur sa dimension expérimentale, Ailleurs s'avère au contraire très incarné, physique, un survival pour enfants doublé d'une allégorie passionnante sur la vie et la mort, un voyage initiatique. Alors le jeune garçon lutte désespérément pour survivre dans un espace mental hanté par ses peurs et ses désirs, matérialisé d'un côté par une forme monstrueuse, tout droit sortie d'un cauchemar, et de l'autre par une île foisonnante, conjuguant toutes les formes de paysages et de vie terrestre présente ou passée, en témoigne cette étonnante apparition onirique d'un troupeau de mammouths. L'imaginaire visionnaire de Ginzil Balodis transcende l'absence de moyens. Il confère à son projet une ampleur et un souffle épique au service d'un dessin d'une pureté graphique voisine de certaines bandes dessinées de la ligne claire. La 3D permet au réalisateur de jouer sur les profondeurs de champ au service d'une mise en scène sophistiquée, d'une belle audace où la caméra, comme en apesanteur, virevolte, transporte le spectateur dans un voyage onirique et inquiétant. Alors quant à la musique que Ginzil Balodis compose également, les sonorités électroniques et les boucles mélodiques se mêlent au vent qui souffle, au crépitement des arbres, aux cris des animaux et aux clapotis des vagues de l'océan. Le travail colossal sur le son crée une atmosphère immersive et hypnotique qui nous fait oublier instantanément l'absence totale de dialogue, un parti pris en adéquation avec ce conte survivaliste universel qui a le grand mérite de ne pas laisser le jeune public en marge. Alors ce dernier risque d'y trouver son compte tant les péripéties sont nombreuses et le suspense assez intense, marqué par un antagoniste ou plutôt une silhouette monstrueuse évoquant autant le golem d'Europe centrale que les formes gélatineuses inquiétantes d'un Miyazaki ou d'un Satoshi Kon. Alors stupéfiant de grâce et d'élégance ailleurs, laisse notre esprit vagabonder ailleurs au gré des interprétations les plus farfelues sans jamais perdre de vue l'essentiel, car l'intrigue, linéaire et simple à appréhender, ne se résume pas à sa seule métaphore d'une lutte acharnée de la survie face à un démon. Elle regorge aussi de symboles, de signes, d'images poétiques, dans une perspective animiste et écologique, proche des aspirations artistiques des génies de l'animation japonaise. Alors découpé en 4 chapitres, Ailleurs, extension d'un court-métrage primé dans de nombreux festivals, Oasis, impressionne par la radicalité d'un projet qui dépasse le simple exercice de style et la richesse de la forme, tant d'un point de vue graphique que narratif. Alors Flo, c'est le prochain projet déjà en route du cinéaste, racontera l'histoire d'un chat terrorisé par l'eau, embarqué sur un bateau avec d'autres animaux. Alors un sujet presque intime, raccord avec le vécu du cinéaste, qui poursuit d'ailleurs, qui disait qu'un récit de collaboration qui sera en partie le reflet de ma propre découverte du travail en équipe. On attend la suite avec impatience, car Ailleurs, cette odyssée surnaturelle et existentielle, ravivant des émotions surgies de l'enfance, demeure sans aucun doute le film d'animation le plus captivant et audacieux vu depuis des lustres. Le film donc sort, il a été repoussé, la sortie DVD a été repoussée, sort donc en DVD le 12 février chez 7set, donc il est déjà en précommande un peu partout, et puis il est visible en VOD sur de nombreuses plateformes, dont Canal+ et Univers Ciné.
À noter que le réalisateur a précisé pourquoi il a fait ça tout seul, parce que il a senti qu'à ce moment-là de sa carrière, il pouvait pas réaliser, enfin faire produire ce film d'animation avec beaucoup de moyens. Donc, comme il avait déjà fait des courts métrages où il faisait déjà tout seul, il s'est dit pourquoi pas faire un long métrage. Et donc voilà. Donc son prochain, si j'ai bien compris, ce sera en collaboration.
En collaboration, effectivement.
Nous parlions de Ailleurs de Ginzil Balodis. Réalisateur laiton à découvrir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on vous retrouvera avec un blind test, encore une fois, et puis toi, Manu, deux chroniques.
oui, deux petites friandises, ce qu'on appelle les Eurospy, des sous-James Bond, italiens ou espagnols, donc avec des fleurs pour un espion et Lucky l'intrépide.
À la semaine prochaine.